Vous êtes sur RTL.
Avec le son du jour.
On voit la violence des combats de ces dernières semaines sur l'usine d'Azovstal.
L'usine d'Azovstal, bombardée, pilonnée depuis des semaines. Vu de l'extérieur, il n'en reste d'ailleurs plus grand-chose. Et pourtant, civils et militaires ukrainiens y ont trouvé refuge pendant 2 mois, terrés dans les sous-sols de cette usine de sidérurgie. Des bunkers sur 6 étages pouvant accueillir 40 000 personnes, vestiges de l'URSS et de la guerre froide dans lesquels l'équipe dont défait le monde a choisi de vous faire pénétrer ce soir.
À quoi ressemblent ces sous-sols? Comment s'organise cette vie souterraine? Et quelle issue pour les soldats qui s'y terrent encore?
Pour le savoir, on a contacté le général Dominique Trinquant. C'est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il a pu consulter des schémas du sous-sol de l'usine.
En dessous de l'usine, il y a des souterrains bétonnés, préparés, etc., qui sont sur 5 ou 6 étages, vous voyez, avec des portes hermétiques entre chacun des étages, avec les escaliers qui descendent. Ce sont des grands couloirs, hein, en fait. Vous avez les dortoirs, l'infirmerie, les endroits où on peut manger et les stocks qui sont prévus avec les réfrigérateurs pour pouvoir maintenir la nourriture en état.
Et pour maintenir une parfaite autonomie en eau potable, par exemple ?
Il y a un système d'approvisionnement sur la ville et la capacité de stockage.
Et en termes d'électricité, c'est autonome ?
Alors oui, il y a des générateurs et c'est autonome, tout à fait.
Mais comment expliquer une telle ville souterraine sous une usine ? Vu d'ici, ça paraît complètement fou, improbable.
Oui, vu de France, mais en fait, c'est assez fréquent dans l'ancienne URSS.
Alors un bon nombre d'usines étaient conçues comme celle-là. C'est toute la période de la guerre froide dans laquelle on se préparait contre des attaques nucléaires.
Et pendant des années, donc, c'est resté à l'abandon, si j'ose dire. Il n'y a pas eu besoin de l'utiliser.
Oui, alors je pense que c'est resté à la fois à l'abandon et à la fois entretenu. Il y avait une volonté de maintenir en l'état les sujets, donc il y avait probablement une cellule qui était chargée d'aller voir si tout fonctionnait, si l'électricité fonctionnait, etc., etc. Et en préalable de la guerre, il est pas impossible, mais j'en ai pas la certitude, que aient été mis en place des stocks d'alimentation, d'eau, etc., pour pouvoir faire fonctionner en souterrain les gens qui seraient à l'abri.
Et les militaires ukrainiens qui restent à l'intérieur, les derniers résistants de Mariupol, ils vont faire quoi maintenant ?
Alors, soit se rendre, soit continuer de combattre. Il y a une stratégie militaire, en fait, derrière tout ça.
À partir du moment où il n'y a plus de civils dedans et que les Russes voudraient rentrer à l'intérieur et combattre contre les gens qui sont à l'intérieur, eh bien c'est l'organisation des obstacles, des mines, des explosifs et des chantiers qui sont organisés à l'intérieur. Avec la difficulté qui est de piéger ceux qui attaquent, mais d'avoir toujours la capacité de survie et de mouvement pour les autres. En fait, on voit bien que les soldats ukrainiens qui combattent à l'intérieur, c'est un peu, pour prendre un historique français, le combat de la dernière cartouche, hein. C'est-à-dire qu'ils sont là pour maintenir les soldats russes de façon à ce que ceux-ci n'aillent pas combattre ailleurs, en particulier dans le Donbass, sachant qu'un jour ou l'autre, cette usine tombera.
Et un nouveau convoi des Nations Unies est en route pour tenter d'évacuer les civils qui sont toujours pris au piège.
Tenter, c'est le bon terme, ouais. Mais en tout cas, on visualisera grâce aux explications du général beaucoup mieux désormais cette usine Azovstal quand on entendra son nom dans l'actualité. RT.